je souhaite avant tout remercier les 5 intervenants à cette table ronde, enfin plutôt table longue que ronde, et simplement donc également les présenter. Je commencerai peut-être par Madame Catherine Sultan, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. On dira plutôt PJJ, ça sera plus simple. Ensuite, Benjamin Camus, qui est chef de la sous-direction donc, de la statistique et des études du ministère de la Justice. Delphine Serre est professeure de sociologie à l'Université de Paris 1. Elle est co-auteure avec Anne Payet, également sociologue, d'une recherche pour la mission de droit et justice qui s'appelle « D'un juge à l'autre, les variations de pratiques de travail chez les juges des enfants ». Ensuite, Laurent Bonnelly, qui est enseignant en sciences politiques à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, et qui, à la tête d'une équipe de 8 chercheurs, a conduit une recherche, une étude quantitative sur la justice des mineurs dans une juridiction d'Île-de-France. Et enfin, Marouane Mohamed, chercheur au CNRS, rattaché au centre Maurice Halvax, qui est l'auteur, l'éditeur, d'un ouvrage collectif qui est paru en 2012 aux éditions La Découverte sur les sorties de la délinquance. Pour ma part, donc, je suis Georges Gariou, directeur adjoint de la mission de recherche droit et justice, une institution sur laquelle je dirai quelques mots dans un instant. Mais avant de passer la parole aux intervenants, je voudrais dire que la situation de la recherche au ministère de la Justice est plutôt honorable, c'est-à-dire que nous avons une place qui est tout à fait intéressante, surtout si on la compare à ce qui est dans d'autres administrations. Et j'en voudrais pour preuve la création, donc en 1994, de la mission de recherche droit et justice, qui a été créée sous la forme d'un groupement d'intérêt public associant le ministère de la Justice et le CNRS principalement, mais aussi l'ENM, les avocats et les notaires. Et la mission de recherche, à l'initiative de laquelle Nicole Maestrachi, ici présente, a été pour beaucoup, donc a permis depuis 20 ans qu'elle existe d'apporter un soutien à la fois financier, technique, administratif, scientifique à environ 500 projets de recherche et 300 soutiens à des colloques ou à des publications. Donc une activité assez considérable. Mais avant de céder aussi cette parole aux intervenants, je voudrais rappeler que la recherche justice telle que nous la connaissons aujourd'hui est en fait l'héritière d'une très ancienne tradition de recherche au ministère de la Justice. Et le secteur de l'enfance a d'ailleurs été tout à fait pionnier en cette matière, puisque la direction de l'éducation surveillée, qui devait devenir protection judiciaire de la jeunesse en 1990, a été créée en 1945, en se séparant de l'administration pénitentiaire à laquelle elle était rattachée jusqu'alors. Et l'éducation surveillée a créé auprès du centre de formation de Vaucresson un bureau d'études qui a permis d'associer très, très fortement les deux fonctions de recherche et de formation. Et je crois que c'était une association tout à fait intéressante. Et on peut à cet égard peut-être regretter que les écoles aujourd'hui, les écoles aussi bien de la magistrature, de l'ENAP, de la PJJ, l'école des greffes, n'aient pas été davantage associées à cette journée des savoirs, parce que je crois qu'il est très important au niveau de la formation justement de faire entrer cette dimension recherche dans la pratique des magistrats, des greffiers ou autres éducateurs. Enfin, bon, ceci est dit au passage. Et donc, les premiers travaux donc du centre de Vaucresson ont porté sur les comportements déviants de l'enfant et de l'adolescent, et ils étaient conduits par des éducateurs, pour beaucoup, des magistrats de la jeunesse, des psychologues, des médecins, des assistantes sociales qui avaient été disons préalablement, mais très sommairement formés à la recherche et qui bénéficiaient aussi du soutien donc de chercheurs, soutien occasionnel de chercheurs venant du CNRS ou de l'université. Et c'était le temps, j'ai envie de dire, un petit peu béni de ce que l'on appelait la recherche-action et qui était présenté comme un modèle de recherche, et dans le rapport de l'éducation surveillée de 1958, ce type de recherche était ainsi décrit. L'association personnelle chercheur caractérise non seulement un esprit d'équipe, mais elle garantit la recherche contre les tentations d'un intellectualisme stérile en la situant comme une recherche engagée. Alors, je ne sais pas, madame la directrice de la PJ, si vous partagez toujours ce point de vue. Peut-être pourrez-vous nous faire part de votre réaction sur ce point. Et pour clore ce bref rappel historique, que je dirais que 15 ans après l'éducation surveillée, l'administration pénitentiaire elle-même se dotait de son propre service de recherche, le Centre national de recherche et d'études pénitentiaires, le CNERP, qui a connu quelques vicissitudes, je pourrais dire. Alors, quelques mots maintenant pour expliquer le mode d'organisation de cette table ronde. Il avait été demandé par les organisateurs, justement, de ne pas trop abuser de l'exposé magistral et plutôt d'engager le dialogue directement entre chercheurs et administration. Alors, nous n'avons pas tout à fait respecté ces consignes, mais en écoutant les premières tables rondes de ce matin, je m'aperçois que nous ne sommes pas les seuls à avoir opéré un petit peu différemment. Et si bien que nous avons moins de scrupules à avoir adopté une sorte de voie médiane entre le tout dialogue et le tout magistral. Alors donc, je vais céder la parole maintenant aux chercheurs en essayant aussi de respecter un petit peu une dimension, elle est systémique, j'ai envie de dire, de présentation, qui est un peu calquée sur la démarche des chercheurs eux-mêmes, qui désormais, de plus en plus, replacent le mineur délinquant dans sa trajectoire à la fois sociale, éducative et judiciaire. Donc, c'est un peu dans cet ordre que nous allons procéder. Tout d'abord, donc, en écoutant Delphine Serre, qui va parler du premier acteur, l'acteur principal de ce système, qui est le juge des enfants. Et ensuite, ce sera Laurent Bonelli qui nous parlera de la prise en charge institutionnelle donc des mineurs, qu'il a étudié à partir des dossiers judiciaires d'un nombre considérable de dossiers, il le dira. Et enfin, pour clore, et c'est presque naturel, ce sera Marwan donc Mohamed qui nous parlera des sorties de la délinquance. Et je me tourne quand même tout de suite vers Monsieur Camus, dont je dois dire qu'il a engagé une sorte de rénovation vraiment importante de l'appareil statistique du ministère de la Justice afin de mieux cerner à la fois l'effectivité et l'efficacité non seulement des lois, mais aussi des décisions ordinaires de justice, et de prendre en compte également la qualité du service public de justice. Et donc, M. Camus est à la tête d'un service qui, à la fois, donc la SDSE, à la fois est producteur et utilisateur de données. Alors, ce n'est peut-être pas très original, mais c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, une de ces manières d'utiliser les données, nous en avons parlé à diverses reprises ce matin, c'est la publication des infostats justice, qui vraiment sont des publications très pointues sur des thèmes précis. Et c'est à partir de l'un de ces thèmes consacrés à la désistance que M. Camus pourra peut-être nous dire aussi quelles sont les potentialités et aussi les limites des données statistiques. Voilà, M. Camus, je me tourne vers vous et pour 10 minutes maximum, et je vais essayer de chronométrer votre temps de parole. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci M. Gariou. Donc, en tant que sous-directeur de la statistique et des études, je dois vous préciser un peu ce que fait ce service, mais Georges Garriou vient le répéter. À 90%, c'est un service statistique ministériel qui fait la production statistique et qui fournit donc la matière première pour de nombreuses études et recherches. Mais au-delà, sous direction de la statistique et des études, nous avons une petite activité d'études et les infostats qui ont été évoqués en témoignent. Et puis, nous assurons une mission de coordination de la recherche réalisée tant en interne qu'en externe au ministère de la Justice. Donc on se situe dans une position d'interface un peu entre la partie justice et la partie recherche, essentiellement sur la partie quantitative, puisque on réalise mission de production statistique. D'où le témoignage que je voudrais donner. Alors ce témoignage, il va s'articuler autour de la présentation d'un travail qui a été fait par un chercheur, Sébastien Delard, qui a travaillé au sein de notre unité et qui a publié alors deux numéros d'Infostat qui ont été diffusés dans le dossier, c'est-à-dire l'un sur les filières de prise en charge des mineurs dans les années 2000 et l'autre sur trajectoire judiciaire des mineurs et désistance. Donc ce sont des travaux qui ont été repris par ailleurs dans l'ouvrage collectif de Marwan Mohamed. Alors je voudrais juste me limiter à quatre remarques sur la démarche, sur les résultats, sur le support d'études et sur la méthodologie. Alors sur la démarche, d'abord, je voudrais souligner l'originalité du chercheur qui a renouvelé l'analyse de la justice des mineurs. Pour le premier travail qui concerne les filières de prise en charge des mineurs dans les années 2000, l'originalité, ça avait été de construire une base de données sur des trajectoires et d'étudier les trajectoires des mineurs sur les années 2000 et de dépasser les comptages statistiques qui étaient réalisés année par année sur les différentes procédures, donc sur l'activité des juridictions mineures, sur l'activité concernant les mineurs. On avait toute une série de comptages annuels, mais on n'avait aucune vision longitudinale qui permette d'observer ces trajectoires. Donc, une innovation dans la démarche, une approche par les trajectoires, qui reste malheureusement un peu embryonnaire en ce qui concerne la justice, alors qu'elle est largement développée dans d'autres domaines, en démographie évidemment, dans les études sur la santé, les études sur l'éducation aussi vont dans cette direction d'analyse de trajectoire. La deuxième originalité de la démarche de ce chercheur, sa deuxième prestation sur les trajectoires judiciaires et la désistance, c'est d'inverser un peu la perspective d'analyse concernant le comportement des mineurs, c'est-à-dire plutôt de se focaliser, comme on le fait souvent, sur les récidivistes en sortant de prison ou les condamnés récidivistes, si pour les mineurs correspond quelques centaines de cas. Essayer de regarder le plus en amont possible quel était le contact des mineurs avec la justice et si les mineurs qui avait eu un premier contact avec les justices, revenait. Donc c'était inverser complètement la perspective d'analyse de ce domaine en s'intéressant à la masse des mineurs qui passent devant la justice et qui ne reviennent pas forcément devant la justice. Alors c'est toute l'analyse de la désistance que développe Marwan Mohamed et qui a trouvé ici un terrain d'exploitation statistique. Donc originalité de la démarche sous ces deux angles qui permettent de renouveler la justice des mineurs. Le deuxième point, c'est des résultats innovants sur les trajectoires des mineurs et sur la désistance. Alors, je vais les rappeler en quelques mots, mais vous les trouverez dans les numéros d'Infostat. Je voudrais souligner à l'occasion que toutes ces études ont été menées en étroite collaboration avec la DPJJ, qui nous a aidé à mieux comprendre les problématiques très spécifiques de la justice des mineurs et à interpréter les résultats. Je remercie en particulier Luc-Henri Choquet de ses conseils. Alors les résultats, s'agissant des trajectoires judiciaires du mineur, on sait que les années 2000 sont marquées par une orientation plus sécuritaire, je dirais, en termes de législation. Ce qui était intéressant, c'est de voir si dans les faits, comment ceci se traduisait dans les faits, dans les trajectoires. Et c'est l'originalité, comme je l'ai rappelé, de la démarche qui a été faite. Donc en ce qui concerne les mesures prononcées par le secteur public, on a un essor du rappel à la loi qui est concomitant à la baisse des abandons de poursuites pour cause de préjudice peu important. Donc le rappel à la loi passe de 14% des orientations directes en début de période, qu'en 22% pour la fin de période. Les abandons de poursuites diminuent dans les mêmes proportions. On a donc une action du ministère public, du parquet, qui donne réponse beaucoup plus largement, même pour des infractions de faible gravité, et qui livre un message en disant qu'il y a, en dépit de l'absence de poursuite, on garde d'une certaine façon la trace d'une commission de l'infraction. Donc une sévérité accrue à ce stade. Et du côté des juridictions pour enfants, on observe là aussi une nouvelle orientation, une nouvelle évolution entre les orientations directes et indirectes, des parcours qui sont un peu plus longs. Alors c'est là où la perspective des trajectoires est intéressante parce qu'on peut voir les longueurs des trajectoires. Et ça, c'est une dimension qu'on ne voit pas si on regarde en transversal. Et c'est là où on voit qu'il y a des trajectoires relativement longues avec plusieurs périodes. Et ce qu'on fait apparaître, c'est le développement de mesures présententielles et de développement de mesures probatoires par rapport à ce qui se passait au début des années 2000. Donc on va donc vers des mesures probatoires, des mesures, des phases un peu plus longues et vers davantage de surveillance active du mineur. Donc ce que montrait cette étude, c'est que au total, la coercition s'est plutôt exercée dans les années 2000 par une inflexion des procédures anciennes, dans le sens que je viens d'indiquer, et sans un recours massif à des procédures plus rapides qui avaient été mises en place, comme le jugement à délai rapproché ou la présentation immédiate. Ça, c'est le premier travail qui a été réalisé. Le deuxième travail concerne la désistance, c'est-à-dire le fait qu'après un premier passage devant la justice, le mineur ne retourne pas devant la justice. Et là, sur un champ annuel de près de 150 000 affaires de mineurs qui est traitées par an, environ 80 000 mineurs traités par an, on a pu établir par des méthodes statistiques que le taux de désistance est de 65%. En d'autres termes, 65% des mineurs ayant eu affaire avec la justice ne commettent pas de nouvelles infractions identifiées dans une procédure en cours ou achevée durant leur minorité. Donc ça concerne plus de 60 000 mineurs chaque année qui passent devant la justice et qui ne repassent pas devant la justice. Donc c'est un résultat assez fort, assez intéressant et qui complète, un chiffre qui est souvent utilisé, qui est le chiffre des 80% de mineurs qui passent devant un tribunal pour enfants et qui ne retournent pas, chiffre qui me semble moins fondé et qui est sur un champ plus partiel. Donc là, il y a un résultat statistique original, une perspective originale. Alors, je développe pas ce point, mais vous verrez dans l'infostat, on compare ces résultats avec des résultats que nous avons obtenus sur la récidive des mineurs, à partir du casier judiciaire. Bon, alors, taux de résistance qui varie selon infraction, qui peut varier aussi selon les mesures prises. Taux de résistance qui sera, par exemple, plus élevé dans le cas des affaires de dégradation-destruction, sur les mesures de milieu ouvert et notamment de réparation pour lesquelles les taux de désistance sont le plus élevés, près de 80%. Troisième remarque concerne le support d'études. Pour conduire cette analyse, on a recouru à un panel, ce qu'on appelle le panel des mineurs, qui est un outil qui couvre la période 99-2011 pour le moment, et qui permet de suivre sur un échantillon représentatif de l'ensemble des mineurs suivis en justice, environ 120 000 mineurs et 300 000 affaires si on raisonne sur l'ensemble de la période. Alors c'est un instrument statistique précieux parce que là on peut construire des trajectoires, analyser des trajectoires. C'est un instrument qu'il faut que nous mettions à jour en fonction de l'évolution des logiciels de gestion de la filière pénale et c'est un instrument qu'il nous faudrait sans doute généraliser pour suivre les mineurs lors de leur passage à la majorité, c'est-à-dire au-delà de l'observation que nous avons sur la minorité, et puis étendre ce type d'analyse sur un échantillon de majeurs sur lequel on pourrait développer le même type d'analyse. Alors, la limite de ces panels, c'est qu'on est réduit à une ossature avec des individus qui sont suivis et des variables sociodémographiques relativement limitées. On va voir le sexe, l'âge, on a tous les phénomènes concernant les procédures judiciaires, mais on a assez peu de descriptions des individus sur des éléments qui pourront intervenir, situation vis-à-vis de l'emploi, situation niveau de formation, situation matrimoniale, etc. Donc l'avenir est sans doute, à partir de cette ossature, de développer des enquêtes ou des investigations complémentaires pour enrichir ce panel et pouvoir développer des analyses de cohorte. Enfin, dernier point que je voulais évoquer, c'est des méthodologies d'analyse adaptées aux données. C'est-à-dire que dans ces deux exemples, on a l'apport d'un chercheur été d'apporter de nouvelles méthodologies sur ces données de panel. Alors, sur le premier travail qui concerne les trajectoires, Sébastien Delard a utilisé une méthodologie d'analyse des trajectoires, en fait, à partir des graphes, d'une modélisation matricielle des graphes qui permet de représenter ces trajectoires, d'en dégager les traits essentiels et de regarder les évolutions de trajectoires dans le temps. Donc, c'était intéressant, ce type d'analyse, il l'avait déjà développé sur des trajectoires d'individus à partir des fichiers de données sociales, c'est-à-dire comment suivre les trajectoires des salariés lorsque les entreprises varient, est-ce qu'on peut suivre des ensembles de salariés. Donc ce type de méthode appliquée sur un domaine était là appliquée sur un autre domaine et permet d'enrichir l'analyse de la justice des mineurs. L'autre travail concernant la désistance, et là c'est quelque chose qui est peut-être plus répandu maintenant, c'est le recours à des modèles de survie ou à des modèles de durée. C'est-à-dire que pour analyser le phénomène de la résistance, qui est de la récidive, pardon, excusez-moi, de la récidive, c'est avec des instances, c'est bon. Pour analyser le phénomène de la récidive, on examine fondamentalement le comportement d'un individu qui rechute au bout d'un certain temps, qui peut rechuter ou ne pas rechuter au bout d'un certain temps, et c'est là où toutes les modèles d'analyse de survie, les modèles de durée permettent de traiter ce type de phénomène. Alors c'est quelque chose qui est très développé dans le domaine médical pour les essais thérapeutiques et peu à peu se diffuse dans les travaux de démographie et dans ce type de travail sur le comportement ou de récidive ou de désistance. On voit l'intérêt de telles méthodes qui se généralisent. Donc je conclue.
Tout à fait, vous êtes dans les temps.
Je conclue pour rester dans les temps. Donc on a l'exemple d'un travail qui a été mené par un chercheur qui avait une démarche originale, qui est travaillé au plus près des données, et ça c'est un point important, et avec des méthodologies adaptées, lesquelles pouvaient avoir déjà été utilisées dans d'autres domaines et qui ont pu être transposées sur le domaine de la justice, sur lequel il y a encore beaucoup à faire en matière quantitative. Donc, première conclusion, c'est qu'on gagne beaucoup en ce qui concerne la statistique et les études à s'appuyer sur des travaux de recherche et sur la fécondité de nouvelles approches et de nouvelles méthodes. Et puis, dans l'autre sens, je pense que si on veut appuyer des travaux de recherche un peu plus innovants, qui aillent plus loin, il nous faut construire des infrastructures statistiques pertinentes, et c'est la construction de panels qui permettent d'asseoir des trajectoires, qui est un travail important et que nous sommes en train de réaliser, que nous souhaitons mettre en place dans les années qui viennent, sachant que spontanément, tous les systèmes d'information du ministère de la Justice traitent des affaires et que la dimension panel et longitudinale est quelque chose qu'il faut construire. Et donc, c'est l'objet d'un développement statistique qui est en cours et qui, à terme, devrait permettre de renouveler largement nos analyses. Donc, voilà le témoignage que je voulais donner sur les liens entre la statistique, la recherche.
Écoutez, merci beaucoup, M. Camille, pour effectivement pour ce premier témoignage justement de l'utilisation des données par des chercheurs. Et on peut se retourner peut-être vers la directrice de la PJJ pour voir aussi si du côté justement du décideur, on fait un usage aussi comparable donc de ces statistiques. Est-ce qu'elles sont pour une directrice, un directeur d'administration centrale, un outil au service du pilotage de sa direction? Je vous pose directement la question, mais vous savez, Madame Sultan, que vous pouvez intervenir à tout moment de nos débats. Voilà.
Ces données statistiques et leur développement indispensable doivent nourrir, étayer nos orientations, les politiques qu'on construit. Il faut les développer. Voilà. Vous l'avez dit. Les points que vous avez donnés, nous les transmettons. Ils viennent puisque une des un des points de faiblesse de la justice des mineurs, c'est que elle est peu connue, mal connue, souvent caricaturée. Et nous avons, et vous nous le montrez là aujourd'hui avec ce premier développement, des arguments pour expliquer qu'elle fonctionne, qu'on peut fixer des priorités, qu'il y a nécessité de s'appuyer sur ce plan-là. Voilà, quand je vois 80% des mesures de réparation qui permettent de, enfin, qui donnent un résultat positif, si en termes de désistance, c'est important. C'est une donnée sur laquelle on doit communiquer, qui ne doit pas pour nous cacher que ces 80% de mineurs qui ont bénéficié de cette mesure ne doivent pas cacher les 5 ou 10%. Pour lesquels ces mesures ne sont pas adaptées, qui ont des profils plus complexes, qui nécessitent un autre type de réponse, ou en tout cas une construction dans la durée différente. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la trajectoire, qui me semble très significative de ce qui fonctionne pour répondre à la délinquance d'un adolescent. La question de la trajectoire.
Tout à fait.
Choisi d'accord. Par la recherche et que nous... Voilà.
Mais par exemple, lorsque les données ou les statistiques vous apprennent que la récidive a lieu pour 50% de son taux la première année, 75% les deux premières années, est-ce que cela vous invite à prendre des mesures d'accompagnement à la sortie d'une peine auprès des mineurs ou...
Oui, bien entendu. Ça vient. Je pense que ça vient aussi étayer. Le temps de la minorité est un temps court. Hein.
Oui.
Voilà. C'est un temps où il est important. C'est un temps court qui nécessite à la fois une réactivité et qui nécessite aussi de prendre le temps de traiter ces questions, enfin de d'y répondre. Donc c'est cette conjugaison des temps différents. Donc c'est ce que ça vient nous dire. C'est-à-dire que ce n'est pas surprenant que cette première année, enfin c'est sur une année les choses se concentrent et que on doit. Vous parliez des peines, je veux dire la question du SAS, de l'accompagnement des sorties, que les suivis soient bien construits dans la cohérence. Hein, pour pas qu'on ne passe pas d'une intervention très intense et après à plus rien. C'est-à-dire voilà, ça vient, c'est ce voilà. qui va, c'est ce que disent ces chiffres-là.
D'accord.
Et c'est à partir de là qu'on s'appuie sur ces savoirs.
Très bien, merci. Mais écoutez, le premier témoignage des chercheurs, donc Delphine Serre, qui va nous parler des facteurs de variation des pratiques de travail chez les juges des enfants.
Bonjour, je vais vous présenter une recherche qui a été menée de bout en bout avec Anne Payet, qui est sociologue à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Donc je parle en nos deux noms, hein. Malheureusement elle n'a pas pu venir. Donc je vais résumer notre recherche en deux points principaux, vu le temps qui m'est imparti. Et si vous voulez plus de détails, je vous encourage évidemment à aller consulter le rapport que nous avons remis à la mission de recherche Droit et Justice. Alors le premier point va porter sur la façon dont nous avons essayé d'étudier les pratiques concrètes des juges des enfants dans le but de repérer des variations éventuelles dans ces pratiques. Et mon deuxième point portera sur la façon dont nous avons essayé d'expliquer ces variations à la fois par des effets de contexte et des effets de trajectoire. Alors bien évidemment, je vais quand même essayer de prendre un peu des exemples pour montrer comment le travail du juge influence les mineurs et leur trajectoire, même si voilà, mon propos va rester un peu décalé, j'en ai bien conscience, d'autant que les exemples que je vais prendre vont être plutôt tirés du côté de l'intervention civile des juges des enfants, même si nous avons observé le volet pénal et civil. En fait, dans l'analyse, pour travailler sur des variations, c'était plus facile dans un premier temps de focaliser le regard sur l'assistance éducative. Alors je l'ai dit, cette étude de terrain menée avec Anne Payet avait pour objectif de départ de travailler sur la totalité des pratiques du juge des enfants sans réduire la question à celle de la prise de décision. Et sans simplement, du coup, réduire l'observation au résultat le plus patent de ces pratiques, les jugements, ni à la forme la plus visible et symbolique de ces pratiques, l'audience. Donc nous sommes entrés dans les coulisses de 4 tribunaux pour enfants pour observer le travail des juges et de leurs partenaires, et puis pour nous entretenir avec eux, soit de façon informelle, soit dans des entretiens enregistrés. Alors une des choses qui nous a frappé, hein, par exemple dans cette enquête, mais c'était présent aussi dans l'enquête faite au JAF par le collectif 11, c'est l'importance de la division du travail dans le binôme juge-greffière. C'est-à-dire que les greffières, bien au-delà de leurs tâches de rédaction, sont amenées à assurer des tâches interactionnelles avec les familles en dehors des audiences. Les greffières sont également en charge du travail de planification des audiences et de l'emploi du temps du juge, et parfois ça les amène même à lire en premier les signalements d'enfants en danger, par exemple, pour décider de leur urgence et savoir quand planifier un rendez-vous. Donc vous le percevez là, et les greffières jouent un rôle qui est invisible mais décisif dans le fonctionnement de la justice des mineurs et dans la définition du périmètre de travail des juges des enfants. Alors de façon bien plus générale, le juge des enfants ne peut pas être appréhendé comme un acteur solitaire. Il est au centre d'un système relationnel extrêmement complexe, ce qui avait déjà été étudié dans un autre rapport remis au GIP qui avait été fait par Benoît Bastard et Christian Moinat. Alors au-delà de cette description détaillée des pratiques des juges des enfants, ce qui nous intéressait était de repérer des variations dans leur façon de travailler. Et l'idée était que même quand ces variations sont discrètes et n'ont pas d'impact significatif sur le contenu des décisions, elles sont intéressantes à analyser sociologiquement car elles peuvent avoir un effet sur les justiciables et la façon dont eux se représentent la justice. Par exemple, les jugements écrits qui sont remis aux justiciables varient énormément dans leur longueur ou dans leur registre de langage. Et derrière ces variations, on peut voir par exemple les façons différentes dont les juges vont aller piocher dans les rapports des travailleurs sociaux, des experts, etc., pour alimenter leur propre jugement. Alors, en comparant systématiquement nos observations à l'échelle des tribunaux et des cabinets, nous avons saisi deux niveaux de variation. Un premier niveau de variation se passe entre les tribunaux. Donc, ça avait déjà été identifié par la sociologie des organisations. Les tribunaux n'ont pas la même répartition des tâches, la même culture locale, la même charge de travail, et tout ça produit des différences. Mais il y a un autre niveau de variation qui est moins étudié, qui renvoie aux variations d'un juge à l'autre ou d'un cabinet à l'autre. Alors, on en a déjà un peu vu avec Émilie Bilan tout à l'heure, puisque ça fait partie des enquêtes qui abordent cette question-là. Alors, pourquoi cette question est moins abordée? Sans doute parce qu'elle est un peu plus délicate et elle est toujours suspectée de vouloir chercher à évoluer ce que seraient les bonnes pratiques des juges et de donc délimiter la façon dont ils devraient procéder. Bien évidemment, évidemment, notre propos n'est pas du tout celui-ci. L'idée était de s'intéresser aux pratiques telles qu'elles sont dans la réalité, sans du tout évaluer ce qu'elles devraient être. Donc, une fois ces variations identifiées, même des variations minimes, nous avons cherché à les expliquer. Et pour cela, nous avons mobilisé deux types de facteurs. Une explication par donc les contextes locaux dans lesquels exercent les juges des enfants et une explication par la trajectoire de ces juges des enfants. Donc nous avons essayé d'articuler deux facteurs qui sont souvent dissociés et je vais maintenant prendre quelques exemples pour voir comment les mobiliser. Alors un premier exemple de variation qui peut être expliqué par le contexte local renvoie au type de décisions qui sont prises. Le raisonnement en termes de filière pénale, mais on pourrait tenir le même sur les filières civiles, permet de comprendre que le juge des enfants est dans une double dépendance. Une dépendance à l'égard de l'amont, bien évidemment, puisque les cas qui lui arrivent par les travailleurs sociaux en assistance éducative, la police au pénal, etc. Mais il y a aussi une dépendance à l'égard des partenaires qui interviennent en aval et qui vont devoir mettre en œuvre la décision prise. En assistance éducative, par exemple, la distribution et le contenu de l'offre associative sur le département pèsent comme des contraintes, mais sont aussi des ressources pour le juge et dans la possibilité qu'il a de mettre en place tel ou tel suivi. Donc, dans son travail décisionnel, il y a une anticipation des places disponibles et il y a aussi une anticipation de l'adéquation de la mise en œuvre de telle ou telle mesure par telle association qui va être plutôt spécialisée sur les décrocheurs scolaires, par exemple, ou l'insertion professionnelle. Dans un des tribunaux observés, ce travail d'anticipation prenait même la forme d'un document qu'une association avait remis au juge qui faisait état des places disponibles et donc qui lui permettait aussi un peu d'intégrer cela. Dans sa décision. Alors, un autre exemple de variation de pratique qui va m'emmener à aller plus du côté des variations liées aux trajectoires concerne par exemple les moments d'interaction entre les juges et les mineurs. Alors, notamment en assistance éducative, où ça se voit mieux parce que ce sont des audiences en cabinet. Alors, globalement, en synthétisant un peu les choses, on peut dire qu'il y a deux façons pour les juges des enfants de gérer les relations avec les enfants en audience. Une première façon consiste à s'adresser directement à eux, souvent en les nommant par leur prénom, pour leur expliquer spécifiquement l'enjeu de l'audience, le déroulement de l'audience. Et à essayer de les faire parler le plus possible sur leur situation et leurs ressentis. Et on observe une autre façon de procéder qui va faire un travail langagier beaucoup moins développé sur les enfants, qui va même beaucoup moins les recevoir seuls en audience. Et dans ce pôle-là, les juges vont plutôt penser les audiences comme un moment d'échange entre adultes, prioritairement. Alors, ces variations, elles s'observent au sein d'un même tribunal, c'est-à-dire à contexte a priori égal, ce qui incite à mobiliser un autre facteur explicatif qui renvoie donc aux différences de trajectoire entre les juges, différences qui renvoient à la fois à leur trajectoire professionnelle, mais aussi à leur appartenance générationnelle, à leur origine sociale, etc. Alors, je ne vais pas pouvoir tout développer ici, bien sûr, je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, une des choses qui nous est apparu, c'est que les juges qui ont commencé leur carrière de magistrat comme juge des enfants avaient tendance à travailler de façon plus rapprochée sur les enfants, comme si ayant appris leur métier de magistrat au contact direct des enfants et des éducateurs, du coup ils avaient forgé d'emblée cette habitude de leur parler un peu plus spécifiquement. À l'inverse, les juges des enfants qui nous disent avoir exercé auparavant comme juge d'instance ont été plutôt habitués à travailler sur dossier et donc ont un sentiment de rupture forte dans leur pratique professionnelle et de fait vont avoir moins tendance à développer cet aspect dans leur pratique. Ce sont aussi les expériences professionnelles antérieures à la carrière de magistrat qui jouent, ou qui semblent jouer en tout cas, puisque voilà, ceux qui ont travaillé dans le privé vont moins s'adresser tendanciellement aux enfants que ceux qui auparavant avaient été travailleurs sociaux. Alors juste pour conclure, je voudrais dire que bien sûr ces deux facteurs explicatifs, le contexte et la trajectoire, ne fonctionnent pas indépendamment l'un de l'autre et que tout l'enjeu est justement de comprendre par quelle médiation des expériences passées vont peser sur les pratiques présentes dans un contexte particulier. Puisque le contexte n'est pas qu'une donnée, c'est aussi un construit. Et si on revient sur mon exemple précédent sur l'offre associative, on voit que les juges des enfants ont trois postures à l'égard de cet élément de contexte. Certains ont une posture de neutralité et ne cherchent pas à intervenir sur la façon dont les les associations vont mettre en œuvre les mesures. D'autres vont essayer de négocier avec les associations pour influencer le contenu des mesures. Et d'autres, enfin, vont être un peu plus dans un rapport de force pour essayer d'influencer très directement la mise en place de ces mesures. On a un cas d'un juge qui a cessé de décider des IOE à un moment pour essayer de faire pression et réussir à obtenir un changement. Donc ces rapports plus ou moins interventionnistes au contexte existent, vont inciter plus ou moins le contexte à changer, et là encore on peut les expliquer par des trajectoires et notamment l'ancienneté dans la carrière. Les nouveaux juges qui sortent directement du système scolaire ont un peu moins tendance dans les cas que nous avons observés à essayer de transformer mais leur environnement que des juges plus expérimentés. Donc si le contexte pèse sur les pratiques des juges et sur l'action qu'ils mènent à l'égard des mineurs, on peut dire que le contexte, en retour, est aussi façonné par les logiques d'action de ces juges et par les habitudes qu'ils ont forgées au cours de leur parcours. Je vous remercie.
Oui, merci Delphine. Tu as dit au départ de ton intervention que tu serais peut-être en décalage par rapport aux autres recherches. J'ai envie de te rassurer parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même appréhension des phénomènes, on va le voir. Mais c'est aussi une manière de montrer que l'on peut aborder la justice d'un mineur, la délinquance juvénile, par d'autres entrées que celles traditionnelles des infractions commises ou des réponses institutionnelles à celles-ci. Et c'est aussi une manière de montrer concrètement comment se construisent ces dossiers judiciaires sur lesquels, justement, Laurent Bonelli a travaillé et a construit toute son enquête.
Peut-être juste, bien volontiers. Vous m'avez dit que j'avais le droit.
Absolument,
d'accord.
Je confirme.
Donc justement là, parce que je ne sais pas si j'aurais pourrais le faire. Je pense que ce que vous développez dans votre recherche vient rappeler l'importance pour la protection judiciaire de la jeunesse d'être bien l'acteur d'une politique publique. Oui. Elle est l'acteur de d'une politique publique de protection de l'enfance, largement vue, hein, qui inclut donc la protection de l'enfance là au sens plus strict, et puis la prise en charge des adolescents délinquants, et que il faut qu'elle ait sa place dans cette politique publique pour l'insertion, alors en fonction d'un contexte local, des moyens dont on dispose, en amont de l'intervention judiciaire et en aval, parce que ces jeunes, ben il va falloir qu'ils puissent prendre pied et s'insérer dans les dispositifs qui existent dans l'environnement de la justice et qui fera, enfin dans ce qu'on appelle aussi le droit commun, pour le dire simplement, il y a cette relation particulière entre le juge des enfants et les services qui mettent en œuvre les mesures. Et pour la protection judiciaire de la jeunesse, son rôle, c'est bien d'être dans un rôle d'animation, dans un rôle de concertation et d'incitateur, en fait, pour mettre à disposition des magistrats des moyens qui correspondent, un équilibre des moyens, donc avec le secteur public, avec le secteur associatif, en lien avec les conseils généraux, et des moyens qui correspondent non pas aux trajectoires des juges, mais aux trajectoires des jeunes. Voilà. Donc c'est ça passe par le dialogue avec, enfin le dialogue, la concertation et ce positionnement qui n'est pas si simple entre une administration et puis une autorité judiciaire qui façonne la justice, comme vous le dites justement, et c'est ça aussi la richesse de cette fonction, puisque la justice se construit au sein du cabinet du juge et dans un contexte qui le dépasse. Mais c'est une justice qui se construit, qui se façonne dans ce contexte-là. Voilà, je vous laisse.
D'accord. Merci, madame. Donc, Laurent Bonelli, si tu veux.
Oui, merci, bonjour, merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'une enquête collective qui est menée avec huit autres collègues depuis 2011 dans un TGI de région parisienne. Alors, l'enquête est terminée, c'est un fait. Néanmoins, les résultats ne seront pas là avant le printemps prochain. Donc grosso modo, je vais vous faire une bande-annonce et je ne vais pas vous présenter un film. Mais vu le temps qui nous est imparti, c'est bien d'avoir une bande-annonce.
Alors, je vais essayer de vous livrer quelques réflexions sur, finalement, la manière dont on a pensé pouvoir travailler la question de la justice des mineurs et de la délinquance juvénile de manière un petit peu plus générale. J'articulerai mon propos en quatre points. Le premier, c'est que, c'est assez banal en même temps, mais c'est que l'entrée par la justice est sans doute une mauvaise entrée pour travailler la question des indisciplines juvéniles. Je m'explique. Nombre de comportements, on le sait, échappent tout simplement au contrôle des forces de l'ordre. Un exemple très simple, par exemple, la consommation de stupéfiants est bien plus réprimée par les forces de l'ordre si elle se place sur l'espace public et que si elle se passe dans des appartements. Et ces différences de rapport à la déviance sont aussi des différences sociales, vous vous en doutez bien. Deuxième élément, peut-être de manière plus importante, les forces de l'ordre, on le sait au moins depuis Aaron Sicurel et puis tout un tas d'autres collègues américains, c'est que les policiers opèrent un premier travail de sélection des contrevenants. C'est-à-dire qu'ils discriminent, si vous voulez, pour un certain nombre de faits, entre ce qu'ils considèrent comme une petite bêtise, un petit dérapage, et le signe de l'entrée dans une carrière délinquante. Et donc, si vous voulez, on va avoir, on peut prendre un exemple très simple, la question du genre pour les vols, par exemple. Vous apercevez que la police traite de manière très très différemment la question des vols dans des magasins ou dans des supermarchés. Les filles sont beaucoup moins réprimées sous ce terrain-là par la police que les garçons, alors qu'elles constituent une partie importante des contrevenantes. Alors, ce processus de sélection, que je vous décris très rapidement au niveau de la police, on le retrouve à toutes les échelles, si vous voulez, évidemment, du processus pénal. Ce processus de sélection, il se poursuit, bien sûr, au parquet, avec notamment le fait qu'on ait des classements, qu'on ait des alternatives, qu'on ait des poursuites, et au niveau, bien sûr, des juges pour enfants, sachant, bien entendu, que ces processus de sélection successifs ne sont pas nécessairement cohérents. On peut s'apercevoir que vous avez des logiques très différentes entre les préoccupations d'un policier, les préoccupations d'un parquetier ou les préoccupations d'un juge des enfants, ce qui explique d'ailleurs, souvent, les griefs que nourrissent de manière permanente les uns envers les autres. Bon. Alors, ce qui veut dire donc quand on s'intéresse à la délinquance, aux mineurs délinquants pris en charge par la justice, si vous voulez, on est confronté à l'ensemble de ces processus invisibles de sélection pour le chercheur qui sont autant, j'ai envie de dire, d'écran par rapport à ce que l'on veut essayer d'expliquer et de travailler. Bon, c'est-à-dire que travailler à partir de la justice des mineurs pour comprendre la délinquance des mineurs, c'est vain. Après avoir passé 3 ans d'enquête en travaillant sur près de 700 mineurs, un peu plus de 1500 affaires, j'espère que non. J'espère qu'on peut travailler de cette manière-là. Alors, j'en viens à mon second point, c'est comment est-ce qu'en réalité la justice des mineurs est pertinente? Par rapport à son homologue des majeurs, la justice des mineurs a cette caractéristique qu'elle est sans doute plus compréhensive. Alors, quand j'entends compréhensive, c'est l'idée qu'elle mobilise, je dirais, souvent une connaissance assez fine du mineur et de sa famille, connaissances construites par des entretiens, bien sûr, mais aussi par toute une pléthore de rapports qu'elle sollicite auprès des travailleurs sociaux et judiciaires, IOE, rapports de mesure, etc. Il y a donc, et c'est particulièrement vrai pour l'assistance éducative, mais on le retrouve également au pénal. Comme l'indiquait un des magistrats qu'on a interrogé dans l'enquête, il disait, le juge ne peut pas réduire le mineur à son acte. Et c'est-à-dire que, si vous voulez, la justice est donc à la fois une grande productrice de savoir sur le mineur et sa famille et un réceptacle de toute une connaissance produite par d'autres institutions, je pense notamment aux services sociaux, et les dossiers sont effectivement remplis de rapports éducatifs, de rapports des services sociaux, de rapports scolaires, etc., etc. Elle constitue donc, à mon avis, un lieu tout à fait privilégié pour étudier comment, si vous voulez, se fabriquent des catégories d'entendement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique, si vous voulez, des catégories de population auxquelles on va appliquer plutôt tel ou tel type de mesure. Et là, je crois qu'on est au cœur, si vous voulez, d'un processus assez fin, et c'est notamment l'un de ces processus qu'on s'est donné pour mission d'essayer de cerner, en construisant donc une grille de codage en 1420 variables pour rentrer, si vous voulez, toutes les informations présentes dans l'ensemble de ces dossiers, depuis des assistances éducatives, des IOE, par exemple, jusqu'à des PV de police, ou etc. Bon. Alors, la justice des mineurs, je suis évidemment rapide dans mon propos, vous m'en voudrez pas, et un peu caricatural, on pourrait dire qu'elle fonctionne en effet d'abord comme une sorte d'institution d'éducation morale, pour parler comme Émile Durkheim. Je crois qu'il y a une dimension très très forte, c'est-à-dire que elle évalue en permanence les garanties éducatives, avec des guillemets, d'une famille ou de l'environnement. Elle sépare les environnements pathogènes, comme on retrouve dans un certain nombre de rapports, de, par exemple, des parents très présents et mobilisés derrière leur enfant. Et évidemment, on se rend compte que dans cette évaluation permanente, dans ce calcul très fin d'analyse de finalement qu'est-ce que cet environnement familial, bah, ça détermine dans une large mesure les mesures qui vont être mises en place. Certaines visant à renforcer l'encadrement familial. On dit, ben voilà, les parents sont un peu en difficulté, comment est-ce qu'on peut les aider? Certaines visant, dans d'autres cas, à substituer à cet encadrement familial jugé défaillant ou insatisfaisant un cadre institutionnel de substitution, enfin, un cadre de substitution, vous m'excuserez. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le jugement, qu'il soit au pénal ou au civil, est en fait donc une sorte de jugement qui est aussi un jugement moral, c'est-à-dire qu'on produit, si vous voulez, une image de ce qu'est une bonne et une mauvaise famille, qu'il est possible d'étudier à travers la masse d'informations contenues dans les rapports. Genre, masse d'informations, et j'ai envie de dire, et nature des informations. Quand on dépouille, comme on l'a fait, des centaines de rapports, vous vous rendez compte qu'est-ce qui ressort finalement, qu'est-ce qu'on a dans ces rapports. Et contrairement à la justice familiale, par exemple, où l'information socio-économique est par exemple très présente, on se rend compte que dans les dossiers judiciaires et d'assistance éducative des mineurs, je veux dire, la question socio-économique est très absente par rapport, par exemple, à la dimension psychologique, les rapports psychologiques à l'intérieur de la famille, etc. Bref, si vous voulez, on peut utiliser cela pour voir comment ces catégories fonctionnent dans, finalement, un lien dynamique entre une analyse fine de l'évolution des familles, l'évaluation que font les magistrats des résultats d'un certain nombre de mesures, et le cas échéant, de nouvelles décisions. On voit bien dans les dossiers qu'il y a une espèce d'ajustement permanent. Donc on a produit une catégorie, on se dit ça va marcher, on essaie quelque chose, on voit on peut laisser passer un peu de temps pour voir si ça marche, si ça marche pas, on essaie d'ajuster. On voit ce processus de tâtonnement. Et je pense que objectiver statistiquement comment se construisent, voyez, ces catégories de familles et s'articulent avec ces mesures, c'est peut-être l'un des premiers acquis que pourrait apporter notre recherche et qui permettrait, je pense, d'illustrer un point aveugle que soulignait M. Camus tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, qu'y a-t-il dans l'ensemble de ces dossiers socio-judiciaires. Alors, évidemment, j'en viens à mon troisième point, tout cela nécessite, évidemment, de faire rentrer d'autres variables. Je ne développerai pas ça plus loin. Delphine vient de le faire à l'instant. Évidemment, ces variables sont à corréler avec les trajectoires des magistrats et ce qu'elle a appelé les contextes locaux ou les configurations locales. Évidemment, tout cela joue. On commence dès lors dans notre enquête à se rendre compte que quelqu'un qui a été juge d'instruction ne se comporte pas nécessairement de la même manière que quelqu'un qui a été juge des enfants toute sa vie, que les effets de génération sont importants, etc. Je rajouterai un point qui est important aussi, c'est l'évolution, dans le temps des politiques pénales. Nos populations courent entre le début des années 90 et 2012. Donc on a une vingtaine d'années, si vous voulez, de politique pénale. Et pour vous donner simplement un chiffre pour illustrer cela, si on prend le tribunal pour enfants que nous avons étudié, en 1996, vous aviez 13% des affaires qui étaient poursuivies en délinquance et 75% en assistance éducative. En 2001, vous aviez 50% des affaires qui étaient poursuivies en délinquance et un peu moins de 50% en assistance éducative. Là-dedans, vous voyez, vous avez une évolution des politiques pénales, nationales, mais aussi locales, avec une réorganisation du parquet, et notamment le fait que des substituts qui avant faisaient du majeur vont faire du mineur. Et évidemment, ça a des effets sur ce que l'on va pouvoir observer, comme vous pourrez imaginer. Alors, il faut que je conclue, donc je terminerai avec mon quatrième point et le mouvement, si vous voulez, général de l'enquête, vous l'avez compris. On part dans cette enquête de l'histoire des mineurs et de leurs familles telle que construite ou appréhendée par les institutions. Alors, institutions sociales, institutions judiciaires. On débouche de cela sur, finalement, comment se constituent des catégories de population qui sont redevables de certains types de mesures, de tel ou tel type de réponse judiciaire. Tout ceci médié, vous l'avez compris, par, évidemment, les trajectoires des juges, les configurations locales et les politiques pénales. Mais, je vais boucler mon propos en revenant à mon point de départ. Je vous dis, vous savez, ce processus de sélection dont je vous parlais, qui était en réalité aveugle. Puisqu'on se rend compte que l'action institutionnelle vient en effet souvent redoubler un jugement social sur certaines catégories de mineurs et de familles. Je vous renvoie aux travaux classiques de Elias et Scottson, par exemple, sur les logiques de l'exclusion, qui montrent comment certaines familles, les plus éloignées des systèmes de normes locaux, sont mises au banc de la communauté. Et ce que l'on voit dans les dossiers que l'on a pu déployer, c'est comment, si vous voulez, les institutions sociales, puis scolaires, puis policières, puis judiciaires, viennent souvent redoubler cette forme d'exclusion. Un enfant de mauvaise famille, je mets évidemment des guillemets à mauvaise famille, aura bien plus de chances d'être signalé par les parents dans une école s'il se livre à des petits désordres scolaires. Les enseignants auront plus de chances de le signaler à un service social. Un enfant d'une mauvaise famille sera plus facilement dénoncé par les voisins dans un cadre d'un petit vol que celui d'une bonne famille. Et donc la police le surveillera davantage qu'elle ne surveillerait quelqu'un, etc. Et vous avez des processus qui, comme ça, vous voyez, terminent de fil en aiguille à la question judiciaire et précisément à la constitution de carrière judiciaire. Et c'est le dernier point, si vous voulez, sur lequel je voudrais conclure. En effet, on aurait tort de penser que cette dynamique institutionnelle de fabrication d'identité ne structure pas à son tour les identités des individus dont on parle. Et ça fera une transition peut-être sur ce que Marouane a à dire, c'est-à-dire qu'on a effectivement des individus dont la réponse institutionnelle structure les identités, y compris dans la déviance. Et vous l'aurez compris, on prêche donc, ou on a en tout cas pris le parti théorique d'une approche relationnelle de la délinquance. Et je crois que notre contribution sera bien entendu imparfaite, mais qui a en tout cas l'ambition théorique de tenir l'ensemble de ces dimensions. Voilà, ça sera sur vos écrans au printemps prochain. Merci.
Oui, merci beaucoup, Laurent, pour ce regard très original, je trouve, sur le traitement institutionnel de la délinquance des mineurs, qui montre, entre autres, que le délinquant oscille toujours entre le criminel et le conventionnel, entre le respect des normes et leur transgression. Et justement, ce caractère intermittent, de la délinquance ne pose-t-il pas des problèmes particuliers, Madame la Directrice, dans l'action donc d'une direction dans, en matière de traitement d'une telle délinquance, de par son caractère un peu imprévisible aussi parfois?
Parce que ce que j'ai entendu et qui me donne envie de voir la fin, enfin de voir le film achevé, c'est ces quelques mots nous renvoient, je veux dire, les bouleversements, les changements extrêmement profonds qu'a connu la justice des mineurs ces dernières années, sont la nécessité pour elle de s'y adapter, de s'ajuster, sans perdre ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire le sens de son action, qui est toujours, qui restera la même, hein, l'ambition d'éducabilité, laquelle vise à répondre à un acte délinquant en vue, dans l'objectif de prévenir la récidive, oui, mais surtout d'avoir une réponse plus durable, c'est-à-dire de construire l'avenir de chacun de ces adolescents. Et donc, le défi reste le même, mais la manière d'y parvenir, la manière dont on doit s'adapter à une demande sociale qui a beaucoup évolué, à un fonctionnement des institutions, et on n'a pas ce recul. Je veux dire, on est dedans, on sait qu'il faut qu'on s'adapte, et là on voit bien le lien qui doit être entretenu extrêmement vivant entre la recherche et les acteurs, les professionnels de cette justice des mineurs, protection judiciaire de la jeunesse, magistrats et l'environnement. Je pense que là, cette présentation, c'est ce qu'elle vient de... moi, c'est ce que j'en retiens. Je veux dire, on a besoin de ce regard un peu sévère, parfois, critique, qui vient nous... il faut s'adapter, s'ajuster, sans perdre le sens premier de la mission. Et c'est vraiment C'est le défi, ou en tout cas le pari qu'on doit faire à la protection judiciaire de la jeunesse.
Merci beaucoup. Marouane Mohamed va nous parler maintenant de son ouvrage sur les sorties de la délinquance. Alors, je noterai simplement à propos de cet ouvrage qu'il comporte 14 contributions et que 10 d'entre elles sont d'origine, disons, anglo-saxonne. Il n'y a que 4 contributions venant d'auteurs français. Est-ce à dire, Marouane, que les recherches sur justement les sorties de la délinquance, la récidive, sont encore plutôt embryonnaires en France, ou ne sont-elles pas convaincantes? Je ne sais pas. À toi d'apporter une réponse, peut-être.
Bien. Je vais essayer de répondre d'un peu métaphorique en disant que c'est un vaste chantier et que ce livre est l'Algeco qui va permettre d'accueillir les personnels. Effectivement, je pense que c'est une bonne manière de poser la question. Pour ce faire, moi, je vais revenir à l'émergence de ce questionnement dans mon parcours de recherche. J'ai soutenu ma thèse en 2007 sous la direction de Philippe Robert au CESDIP et j'avais commencé des entretiens par rapport au phénomène de bande dès 2001, à l'époque où j'étais en licence à Paris 10. Donc j'ai fait des dizaines d'entretiens entre 2001 et 2002 avec ceux que j'allais réinterroger avec d'autres durant mon travail de thèse. Et ce qui m'a frappé fin 2006, au moment où j'arrête les derniers entretiens, même si j'arrête jamais, j'en fais des fois pour le plaisir, ce qui m'a frappé à cette époque, c'est de me rendre compte que plus de la majorité de ceux que j'avais interrogés en 2001, 2002 étaient passés à autre chose. Donc on parlait de quoi? On parle du phénomène des bandes qui impliquait à l'époque des mineurs inscrits dans une délinquance de voie publique, assez actifs, assez dynamiques. Certains d'entre eux donnaient du fil à retordre aux éducateurs de la PJJ, aux éducateurs de la prévention spécialisée. Certains, on pouvait les considérer à l'époque comme des intraitables. Et je suis persuadé que si on leur avait appliqué des méthodes actuelles à Ariel, ils auraient eu de très mauvais scores. Et pourtant, ils sont passés à autre chose. Et pour certains, de manière assez spectaculaire, vu la position qu'ils occupaient dans la rue. Donc c'est mon premier étonnement. Tiens, voilà des jeunes qui passent à autre chose et qui bousculent, faut le dire tel quel, les grilles d'analyse qu'on plaque également sur leur parcours en tant que sociologue. Le type d'interprétation qu'on peut plaquer sur eux en tant que sociologue. Deuxième étonnement, donc je m'y intéresse, Philippe Robert m'encourage à en faire quand même un petit chapitre dans ma thèse sur les sorties de bande, et du coup je vais rechercher dans la littérature académique de quoi me nourrir. Et là, pour le coup, dans l'espace francophone, c'était Ramadan, hein, pour aller très vite. Et donc j'ai été chercher de quoi faire là où il existait de la matière, c'est-à-dire au Royaume-Uni, aux États-Unis, et puis dans un certain nombre de pays scandinaves, notamment la Suède et la Finlande. Donc ce qui explique pourquoi 10 contributions sur 14 soient des contributions de collègues anglo-saxons. Ce qui est intéressant, et j'en viens à cette collaboration recherche ministère de la Justice, c'est que dès que je constate qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose dans l'espace francophone, j'ai vu après que Martin Herzog-Evans avait dirigé un dossier sur la désistance, et je reviendrai sur le terme, dans une revue spécialisée, et donc je me tourne vers la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Pourquoi est-ce que je me retourne vers la DPJJ en premier? Sûrement un effet de socialisation au CESDIP, dans lequel le partenariat justice-recherche est complètement institutionnalisé. En tout cas, je me retourne vers mon interlocuteur, Luc-Henri Choquet, qui réagit immédiatement, qui fait remonter immédiatement, et très très vite, j'ai de quoi faire financer les traductions des textes. Donc là, il y a une réactivité immédiate par rapport à cette question-là. Et ça rejoint un peu ce que disait Benjamin Camus tout à l'heure, c'est que ça rejoint des projets de publication, des réflexions en cours au sein de la sous-direction statistique, et ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a le papier de Delard qui, finalement, s'est aussi alimenté de ces concepts de désistance, de ces textes qu'on a mis à disposition. Je me tourne également vers la DAP et Annick Hensey pour connaître qui ne récidive pas. Donc elle m'offre un papier assez exhaustif sur cette question-là. Et puis il y avait une équipe de la PJJ qui travaillait également sur la question des CEF et de leurs effets à long terme. Donc voilà comment une dynamique s'installe, une dynamique de recherche dans l'interaction. En France, il n'y a pas grand-chose. Alors, quand je dis pas grand-chose, il y a eu cette fameuse étude de Robert Castel sur les sorties de toxicomanie, mais qui datait un petit peu et qui était vraiment très, très spécifique. Et puis, on a des enquêtes sur les sorties de sans-abrisme, comment on quitte la rue, les marginalités urbaines. Et puis, on a des enquêtes dirigées par Olivier Filleul sur les désengagements militants. Mais de manière générale, en sciences sociales, on se pose rarement la question des sorties ou du désengagement social. On a intériorisé, on a une manière de problématiser nos recherches qui nous amène d'abord à regarder de ce qui se passe devant. On a le regard pointé vers l'avenir et beaucoup moins vers le passé. Et ça me semble intéressant de questionner cette manière de problématiser nos recherches, notamment quand on s'interroge sur les trajectoires sociales, quelles qu'elles soient. Alors, l'autre explication, à mon sens, sur le fait qu'il y ait peu de choses sur les sorties de délinquance, c'est cette espèce de dialectique permanente, justement, entre l'agenda politique et l'agenda académique, pour aller un petit peu assez vite. La recherche sur la question pénale s'est longtemps focalisée sur le passage à l'acte, puis sur la récidive, puis sur la question des sorties de délinquance, parce que l'opinion, parce que la demande politique, parce qu'il faut gérer des urgences et des situations tendues, ce qui nous amène à nous éloigner de la situation des personnes qui peuvent passer par la justice pénale et qui rentrent dans le rang. En tout cas, on pense qu'ils rentrent dans le rang. Et là, je vais venir sur la question des définitions, parce que il me semble que là, il y a peut-être un certain nombre d'ambiguïtés qui se sont déjà installées autour de cette notion de désistance. Rapidement, et j'ai voulu... je me suis rapidement aperçu qu'il y avait deux manières d'approcher cette question de la désistance ou des sorties de délinquance. De manière qui ne sont pas forcément antagonistes, mais qui s'inscrivent dans des paradigmes relativement différents. Une première manière, c'est une appréhension du concept de désistance dans un cadre, dans un paradigme de gestion des risques. Donc, une approche très défensive du concept de désistance qui est centrée sur l'efficacité des prises en charge et qui tend, et là c'est un point épistémologique important et on est au cœur d'un débat actuel sur les méthodes actuarielles, et qui tend à faire porter les difficultés de désistance ou la question de la récidive sur l'individu, sur son psychisme et ses limites présumées, et beaucoup moins sur d'autres éléments explicatifs sur lesquels j'insiste davantage. Et on a ce clivage-là qui amène, dans ce premier courant, à considérer, souvent à penser que les choses sont synonymes, que la non-récidive est synonyme de désistance ou de sortie de délinquance. La deuxième approche dans laquelle je m'inscris davantage part des parcours, et des parcours à long terme. Les sorties de délinquance sont considérées comme des expériences globales, complexes, plurielles, qui prennent du temps et qui impliquent de les mesurer, de les prendre en charge dans le temps long. On n'est pas du tout, on parle beaucoup de temps ce matin, sur les mêmes temporalités d'analyse. Du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes méthodologies déployées. Je reviendrai sur la question de la méthodologie. Donc c'est un point qui me semble important, et je voudrais insister sur le fait que les sorties de délinquance ne se mesurent pas forcément à partir d'un indicateur de non-récidive. La non-récidive, c'est une chose, les sorties de délinquance, c'est autre chose. On ne sait pas quel est le rapport entre la non-récidive et la sortie de délinquance. On n'a pas les moyens aujourd'hui de mesurer ce rapport entre les sorties de délinquance et la non-récidive. Donc forcément, aujourd'hui, quand on veut faire une étude sur la désistance en France, on utilise l'appareil statistique disponible, c'est les radars judiciaires. Il n'y a que ça de disponible. Nous n'avons pas pensé, parce que ce n'est pas une question centrale, un dispositif de mesure ou de suivi qui nous permette de comprendre et d'analyser les sorties de délinquance, et pas seulement la non-récidive. Vous avez des récidivistes qui sont sortants, et vous avez des non-récidivistes qui sont persistants. On pourrait dire résistants, mais qui sont persistants dans la délinquance. Et j'en ai rencontré quand même plusieurs, et je me suis moi-même fait avoir. Pour vous dire les choses telles quelles, j'ai sollicité un jeune que je suis depuis très longtemps, en lui demandant sur cette question des sorties de délinquance, parce que pour moi, il était passé à autre chose. Il m'a dit, mais pourquoi tu me demandes ça à moi ?
voilà, je suis encore dans le circuit, de manière très invisible, de manière très organisée, en ayant finalement converti et réutilisé une espèce d'expérience liée à sa carrière délinquante précédente. Donc il y a des délinquants performants. Et un délinquant performant, c'est quelqu'un qui n'est pas visible, qui n'est pas repéré et qui n'est pas repérable. Et ça peut durer des années comme ça. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment à ne pas assimiler ces deux idées. Et je sais que ça pose une limite immédiate dans nos capacités de cadrage et d'analyse à long terme, mais c'est un point qui me semble très, très important. Rapidement, sur les sorties de délinquance, moi, j'ai mené des recherches auprès de dizaines d'individus sur les sorties de bandes. Alors, vous savez, on peut sortir des bandes et être encore dans la délinquance, en étant dans le trafic de stupéfiants, dans des criminalités rémunératrices beaucoup moins visibles. Mais de fait, la plupart des jeunes que j'ai suivis, que j'ai interrogés, sont sortis de la délinquance et pas seulement sortis des bandes. Certains ont fait un passage par d'autres formes de criminalité un peu mieux organisées, un peu plus rentables, mais la plupart sont sortis. Du coup, de ceux de 2001, 2002, et qui étaient déjà dans le terrain auparavant, il n'y a que ceux qui ont persisté dans des carrières délinquantes et qui, du coup, aujourd'hui, sont tous à peu près trafiquants de stupéfiants en gros ou en demi-gros, ou bien qui font de l'escroquerie, ou bien une autre minorité qui est complètement clochardisée, c'est-à-dire à la fois marginale localement et socialement. Mis à part ces cas minoritaires de trajectoire minoritaire, la plupart des autres sont passés à autre chose. Et quand je dis passer à autre chose, ils ont cessé leurs activités délinquantes. Et c'est pas parce qu'on cesse une activité délinquante qu'on a forcément une position sociale de remplacement. Pourquoi? Et ça renvoie à la nature même des processus de sortie de délinquance. C'est que pour comprendre les sorties de délinquance, il faut à la fois prendre en compte l'usure liée aux carrières délinquantes, à cette expérience-là, et l'ouverture sociale, c'est-à-dire la possibilité de se projeter et d'accéder à des positions sociales autres. Il y a beaucoup de sortants qui quittent la délinquance par effet d'usure, et l'usure est multiple, sans forcément trouver une position sociale immédiatement compensatrice. Et donc c'est un point qui est intéressant, qui m'amène à insister sur cette notion de sortie, plus que c'est sur une notion d'appropriation d'une nouvelle position sociale. Il y a une disjonction parfois durable entre les deux. Travailler sur les sorties de délinquance, c'est d'abord travailler sur le temps. Et le temps se décline de deux manières, pour aller très très vite. D'une part, la question de l'âge, c'est-à-dire du processus de maturation, et c'est le facteur principal. Ce facteur principal qui fait que, finalement, une trajectoire délinquante, en termes de carrière délinquante, elle prend racine à l'adolescence, elle accélère jusqu'au tournant de la vingtaine, elle stagne pendant quelques années, puis après elle décline. C'est à peu près une courbe qu'on retrouve dans beaucoup de pays industrialisés dans lesquels l'appareil statistique permet de faire des comparaisons. Alors c'est très ingrat pour la PJJ. Parce que, justement, pour les professionnels de la PJJ interviennent au pire moment de cette trajectoire. Et je pose ce point-là, et j'insiste sur ce point-là, parce que forcément, il y a beaucoup de questionnements autour de l'efficacité de la PJJ, la légitimité de la PJJ les effets des prises en charge. Mais je pense que pour les professionnels de la PJJ, mis à part les 65% qui viennent, qui se sont fait avoir et qui reviennent pas parce qu'ils n'étaient pas forcément engagés dans des formes de délinquance très routinisées, etc., ou dans une logique collective très visible, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent. Là encore, il faudrait aller vérifier qu'ils arrêtent complètement leurs bêtises, en tout cas les bêtises qu'ils ont amenées. Mais c'est le tiers restant pour aller très très vite, notamment parmi ce tiers restant, les multiréitérants qui mettent en échec toutes les réponses qui sont et toutes les modalités de prise en charge qui leur sont proposées. Au fond, la PJJ est évaluée, souvent critiquée, à l'aune de cette minorité de jeunes mineurs dans un moment qui est le moment le plus difficile. Donc un conseiller de probation et d'insertion a plus de chances de voir les résultats de sa prise en charge, j'ai envie de dire, qu'un éducateur de la PJJ. Il faut le savoir parce que c'est un point qui me semble important au niveau des prises en charge, notamment dans les phases de sortie de délinquance. Il me reste combien de temps, M. Garry?
C'est terminé.
Alors, je vais conclure. Si c'est terminé, je vais conclure. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un chantier. Tout est à mettre en place. Il y a beaucoup de pistes, peu d'étudiants,
beaucoup, beaucoup de pistes à développer, notamment pour avoir des éléments de cadrage statistique. Et à mon avis, il faut construire une base avec une démarche originale. On ne peut pas se baser que sur le fichier du casier judiciaire. Il faut peut-être s'appuyer sur le casier judiciaire national pour construire une population et aller l'interroger. Ça, c'est un premier point qui me semble intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il y a des sous-populations quand on parle de sortie de délinquance. On ne traite pas de la même manière, en termes de dispositifs de recherche, des personnes qui sont dépendantes aux psychotropes et dont la délinquance repose sur la dépendance aux psychotropes, que des personnes qui sont dans les formes de délinquance liées à la pauvreté, etc. Je vais vite, je suis schématique, mais comme je suis déjà hors temps. Troisième point, c'est que les résultats de toutes ces recherches, qui, je l'espère, vont se multiplier, interrogent directement et le fonctionnement de la justice et les finalités consciente ou inconsciente de la justice. C'est quand même frappé, et c'est frappant, et ce sera mon dernier mot, qu'on ait si peu d'informations sur les sorties délinquance, qui est quand même la finalité réelle de l'action de dizaines de milliers de professionnels en France, de la justice ou du travail social, pour aller très très vite. Je vous remercie.
Merci. C'est vrai que le dernier questionnement de Marouane mérite sans doute une réponse de la part de la DPJJ. Mais personnellement, je voudrais réinterroger justement Madame la Directrice sur le fait qu'on parle très souvent de spécificité de la justice des mineurs, en disant qu'elle est plus sensible, etc., etc. Est-ce que, selon vous, il y a une spécificité des relations entre l'administration donc de la justice des mineurs et la recherche, au niveau justement de la commande de recherche auprès des chercheurs, de la commande politico-administrative et la réponse de l'offre de recherche au niveau de l'articulation entre une logique administrative, juridique et une logique scientifique. Est-ce que, selon vous, il y a une spécificité
J'aurais quand même voulu réagir un peu.
Je vous demandais effectivement de réagir directement à la question de Marouane.
À la question de Marouane Mohamed, en disant que... Alors là, je veux le rassurer, c'est que c'est pas du tout déprimant pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et de l'entendre, c'est au contraire énergisant. D'abord, vous venez dire qu'il faut donner les moyens à la protection judiciaire de la jeunesse d'exercer l'ensemble de ses missions, puisque c'est là que tout se passe. Et c'est là qu'on va pouvoir infléchir ces trajectoires, agir sur les points, d'ailleurs, qui sont bien développés dans l'ouvrage, de qu'est-ce qui va faire évoluer un jeune, qu'est-ce qui va venir en soutien de sa famille, qui insiste aussi sur l'importance des rencontres, que ce soit la rencontre d'un juge, avec ce principe de la justice des mineurs qui est celui de la continuité personnelle, donc un juge qui va qui ne sera pas dans l'échec, parce que ce que vous dites aussi vient dire que oui, l'échec des mesures, ça va pas durer, voilà, et ça on le sait. On sait qu'on a plus de chances d'y arriver sur un temps qu'il faut qu'on maîtrise. Et puis la rencontre, bien sûr, éducative, ce point d'appui qui là aussi fait que ce n'est absolument pas un métier déprimant. Parce que on sait que ces rencontres, ressources donnent de la force, et que c'est ça qui va permettre. Et puis que quand on a un jeune face à nous, on ne sait pas, même si l'institution, je pense qu'on ne peut jamais dire celui-là, ou bien on a des risques de se tromper, ce qui est très rassurant, celui-là va faire carrière, il n'y a rien à faire. On sait sur quoi on peut jouer pour que ça bouge, mais on ne sait pas comment les choses se passeront. Alors les travaux les orientations structurantes de la protection judiciaire de la jeunesse aujourd'hui sont très ancrées sur cette notion du temps. Du temps et du parcours, que ce soit dans le projet de réforme du droit pénal des mineurs qui est à l'ouvrage au sein de ma direction et en lien avec la direction des affaires criminelles et des grâces, bien on travaille sur cette idée d'une maîtrise du temps par la procédure adaptée, par une procédure spécialisée, spécifique, dédiée, le temps, un temps une justice réactive, parce qu'il faut que l'institution puisse répondre, et puis ensuite, à partir de ce qu'on appelle la césure de la procédure, un temps plus long qui permet justement d'adapter les mesures aux évolutions et aux accidents, ou au contraire aux progressions d'un parcours, et que la décision finale de la justice vient tenir compte de ce parcours construit au sein de l'institution. Et puis donc ça c'est le projet de loi. Et puis les orientations de la protection judiciaire de la jeunesse, donc les orientations pour notre administration sont également construites sur cette idée-là, construire la continuité des parcours de chaque mineur, c'est-à-dire à la fois s'inscrire dans la durée, parce qu'on sait qu'il faut s'inscrire dans la trajectoire, comme vous l'avez dit, c'est ça qui est pertinent. Et en même temps, que ce soit un temps de que sur cette durée-là, on puisse aussi être dans une souplesse, et pour que les réponses s'adaptent aux différentes étapes. Donc, c'est organiser notre objectif, c'est bien d'organiser toute la protection judiciaire de la jeunesse vers cet objectif bien compris de continuité et de souplesse et d'individualisation de la réponse. Voilà. Donc, et pour conclure, je pense que vous l'avez dit mieux que ce que je pourrais le dire lors de votre introduction la place de la recherche au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je pense que nos missions mêmes, ce travail, l'action éducative dans le cadre judiciaire est par lui-même c'est une culture professionnelle, c'est une pratique professionnelle qui s'est créée, qui s'est construite depuis 1945, et je pense que c'est un terrain de jeu formidable pour les chercheurs. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre en ayant moi-même parcouru cette justice, mais d'une place différente. Je pense que je ne peux pas le dire autrement.
Merci beaucoup. Merci.